Chers amis des cellules, bonjour. La semaine dernière, nous avions regardé comment l'être même de Dieu est de se révéler, de se donner, comment au cœur de la Trinité même, le Père donne tout au Fils, qui donne tout au Père dans l'Esprit, et Dieu lui-même sort de lui-même pour se faire connaître au monde qu'il a créé, et pour que le monde qui a été créé par lui puisse en retour se donner par amour. Nous avions vu comment Dieu responsabilisait ce peuple créé par des hommes et des femmes à son image et à sa ressemblance, qui ont eux aussi donc pour mission de se livrer par amour pour révéler celui qui les a créés, celui qui les appelle à la sainteté, qui les appelle à la vie. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette même veine missionnaire en regardant le mandat missionnaire que nous a confié Jésus. Nous regarderons le mandat missionnaire que nous a confié Jésus, et nous regarderons aussi quelques difficultés, quelques résistances qu'il nous faut dépasser. Commençons par regarder quatre textes de l'Écriture qui explicitent ce mandat missionnaire donné par Jésus. Le premier texte est la finale de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 28, je cite. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit Jésus ressuscité. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » En évoquant toutes les nations, Jésus manifeste que la bonne nouvelle doit être annoncée à toutes les cultures de toutes les époques. Il n'y a pas une bonne nouvelle qui serait seulement réservée pour l'Occident, elle est pour toutes les nations, quelles qu'elles soient. C'est une chose qui est vraiment importante à entendre et à intégrer pour nous, parce que la laïcité à la française nous a habitués à ne jamais aborder les questions de religion, nous a habitués à les garder simplement dans la sphère privée, alors que Jésus nous invite vraiment à témoigner de notre foi, car la bonne nouvelle est une bonne nouvelle destinée à tous les peuples, à toutes les cultures, à toutes les races, quelle que soit leur époque. Au passage, soyons précis sur ce que dit la loi française sur la laïcité. Elle ne dit justement pas que les affaires religieuses sont seulement de la sphère strictement privée. Mais la loi française dit que les opinions religieuses ou philosophiques sont une affaire privée. Il y a une différence entre sphère privée ou affaire privée. Si c'était la sphère privée, de fait, il n'y aurait pas le droit d'en parler sur la place publique. Si c'est une affaire privée, cela signifie que cela regarde chaque individu, mais que chaque individu peut en parler même sur les places publiques, dans la mesure où il ne trouble pas l'ordre public. C'est tout à fait différent. La finale de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 16, évoque ce même mandat, je cite, « Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créatures. » Fin de la citation. Nous avons ici deux aspects particuliers. Le premier aspect est un aspect géographique, le monde entier. L'insistance n'est plus sur toutes les nations ou tous les peuples, mais sur le monde entier. Géographiquement, toute la terre est appelée à recevoir cette évangélisation. Mais aussi proclamer l'Évangile à toutes les créatures. Il y a quelque chose là de particulier, parce que du coup l'annonce de la bonne nouvelle ne désigne pas simplement l'annonce aux humains. Bien sûr, elle est prioritairement l'annonce aux humains, mais elle est aussi une annonce à toutes les créatures. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que ça signifie, une annonce aux créatures qui ne sont pas humaines? C'est-à-dire que on va faire comme saint François d'Assise et prêcher l'Évangile aux petits oiseaux. Alors cela ne signifie pas forcément organiser des conférences pour les moineaux, les chiens et les chats domestiques, mais cela signifie en tout cas, par notre façon de prendre soin de la création, nous rendons grâce au Créateur et nous le rendons visible, nous rendons visible sa bonté vis-à-vis de la création par la façon dont nous-mêmes nous sommes les intendants de la création. L'être humain est appelé à tirer sa subsistance de la création, mais il est appelé aussi à être une bénédiction pour la création. S'il est celui qui la ravage, celui qui laisse un désert après lui, eh bien, il n'est pas annonceur de la bonne nouvelle. Annoncer l'évangile à toutes les créatures, c'est aussi prendre soin de cette maison commune, comme le dit le pape François. La première finale de l'évangile selon saint Jean, au chapitre 20, évoque elle aussi ce mandat missionnaire. Le Christ ressuscité apparaît à ses disciples, leur dit, je cite, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Alors nous voyons ici à la fois le mandat, l'envoi que Jésus fait pour ses disciples, qu'il réfère à l'envoi qu'il a lui-même reçu. Donc là, nous évoquons ce que nous avons dit la semaine dernière. Le Fils est envoyé par le Père, les disciples du Fils sont eux aussi envoyés. La petite chose que nous noterons, c'est que cet envoi est accompagné d'un don, un don de l'Esprit Saint. Il y a un équipement particulier, il y a une aide particulière, un secours particulier qui est fourni pour que cette mission puisse être accomplie. Et ce don, c'est celui de l'Esprit Saint. Dieu ne nous envoie pas en nous disant « débrouillez-vous, voilà, je vous ai envoyé, vous trouverez bien les moyens qui conviendront ». Dieu nous envoie et nous donne aussi le secours nécessaire pour que la mission puisse avoir lieu. Ce secours est le don de l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit de Dieu. La finale de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24 évoque elle aussi cet envoi. Je cite, « On prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. » En plus de l'envoi à toutes les nations et de l'aide fournie pour que cette mission puisse se tenir, il s'agit de l'Esprit Saint, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, l'Esprit Saint, il y a une petite notion qui vient encore éclairer le déploiement de l'évangélisation. C'est la mention à commencer par Jérusalem. Le début des Actes des Apôtres, qui sont la suite de l'Évangile selon saint Luc, va d'ailleurs déployer ce point. Je cite au chapitre 1. « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quelle est la précision que cela nous apporte? La précision que cela nous apporte est une progressivité dans l'évangélisation. L'évangélisation commence par Jérusalem où ils sont, puis on va un peu plus loin la Judée, puis on va un peu plus loin la Samarie, et cela ira jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi nous découvrons que l'envoi que Jésus fait, le mandat missionnaire que Jésus donne, commence par ce qui est le plus proche de nous. Commence par ce qui est le plus proche de nous. De façon ordinaire, donc, l'envoi en mission concerne une mission sur le cadre où nous sommes, d'abord sur le cadre de vie dans lequel nous nous trouvons. Et le cadre de vie dans lequel nous nous trouvons, cela va être notre famille, cela va être nos voisins, cela va être nos collègues de travail, cela va être les personnes que nous rencontrons sur notre chemin, pour aller au travail, pour aller faire nos courses. C'est donc ce milieu de vie immédiat dans lequel je me trouve. À bien y réfléchir, cela est logique, cela correspond à ce double commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Justement, le prochain, c'est strictement celui qui est le plus proche de nous, celui qui est à proximité de nous, celui qui est sur notre chemin. Rappelons maintenant, dans un deuxième temps, comment cette évangélisation est bien l'affaire de tout le peuple de Dieu. Je voudrais cité un passage du décret sur l'apostolat des laïcs dans le Concile Vatican II. Je cite « C'est le Seigneur lui-même qui, par le Concile, presse à nouveau tous les laïcs de s'unir plus intimement à lui de jour en jour et de prendre à cœur ses intérêts comme leur propre affaire, de s'associer à sa mission de sauveur. Il les envoie encore une fois en toute ville et en tout lieu où il doit aller lui-même. Ainsi, à travers la variété des formes et des moyens du même et unique apostolat de l'Église, les laïcs se montreront ses collaborateurs, toujours au fait des exigences du moment présent, se dépensant sans cesse au service du Seigneur, sachant qu'en lui, leur travail ne saurait être vain. » On pourrait rajouter encore une phrase de Paul VI, « L'Église existe pour évangéliser » dans Evangelii Nuntiandi. La mission, l'évangélisation n'est donc pas l'apanage des prêtres, des religieux, des missionnaires. Il est le lot, l'appel, la vocation, la responsabilité de tous les chrétiens, de tous les laïcs donc. Cela étant rappelé, je voudrais maintenant évoquer trois résistances que nous pouvons rencontrer. La première, ce sont les doutes qui parfois peuvent nous habiter. Il y a des jours où les doutes peuvent être présents dans notre cœur, notre assurance peut être un peu ébranlée, et nous nous disons alors, mais est-ce que je suis bien légitime pour annoncer la parole de Dieu alors qu'il y a quelques doutes, des questions, des résistances dans mon cœur ? Bien, souvenons-nous que dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, ceux à qui Jésus donne ce mandat missionnaire ne sont pas tous si fermes que cela dans leur foi. Je cite « Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc. » Donc nous voyons que c'est pourtant à des disciples, à des apôtres qui avaient encore difficulté de foi, que le mandat a été donné. Donc n'ayons pas peur, les apôtres ont eu ces difficultés et par la grâce de Dieu les ont surmontées, ça n'a pas détourné le Christ de leur confier cette mission, eh bien nous aussi, n'ayons pas peur, le Christ nous envoie bien en mission alors même que nous pouvons avoir cette résistance. La deuxième résistance qui peut nous freiner, c'est de nous dire « Mais est-ce que cette parole aura bien une efficacité, alors que peut-être pour moi elle me semble ancienne ?» Et là, il y a vraiment un acte de foi de croire au pouvoir de la parole, de croire que le témoignage sur l'action de Dieu aujourd'hui dans nos vies touche les cœurs. Alors même que notre propre cœur n'est peut-être plus touché par cet événement-là. Je voudrais prendre pour exemple le fait que lorsque nous faisons un témoignage sur l'action de Dieu dans nos vies, sur la façon dont nous avons vu Dieu à l'œuvre, ou repéré l'œuvre de Dieu dans notre vie, eh bien cela touche des cœurs. Alors que le témoignage, peut-être nous l'avons donné plein de fois, et pour nous c'est presque une routine. Mais voilà que régulièrement, il y a des gens qui sont touchés, parce que Dieu fait passer à travers sa parole une efficacité, une puissance qui n'est pas liée à notre seule expression. Nous devons avoir cet acte de foi que la parole de Dieu est puissante par elle-même, et que nous devons accepter, j'allais dire, d'en être les témoins, de la proclamer, de la faire retentir, de faire retentir cette œuvre de Dieu que nous avons vue à l'œuvre dans nos vies, parce qu'elle a une propre puissance qui va au-delà de mes mots, qui va au-delà de mes attitudes, qui va au-delà de mes expressions. Ayons cet acte de foi, croyons au pouvoir de la parole qui dépasse notre propre humanité, qui dépasse le pouvoir de notre propre humanité. Enfin, la troisième résistance est de croire que nous sommes tout seuls pour cette mission. Or, Jésus nous dit bien « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est là encore cet acte de foi de croire que Jésus agit à travers nous, qu'il ne nous laisse pas seuls, il nous envoie, mais parce qu'il veut agir à travers nous. il nous envoie, et peut-être nous avons l'impression de dire « mais je n'ai pas vu de halo particulier, le chant des anges ne résonnait pas à mes oreilles ». Pourtant, par le baptême, par la confirmation, par ma fidélité à l'Eucharistie, le Seigneur est présent avec moi, le Seigneur veut agir à travers moi. En somme, retenons tout particulièrement que le Seigneur nous envoie à toute la terre, à toutes les nations, à toutes les cultures, de toutes les époques, qu'il nous donne le secours de son Esprit Saint pour que cela soit possible, et ce, à tous les baptisés, laïcs compris, que c'est bien la nature même de l'Église que d'annoncer la bonne nouvelle, et que, pour cela, nous devons dépasser trois résistances. Celle de croire que nos doutes nous empêchent de pouvoir évangéliser, celle de croire que notre parole devrait elle-même avoir une puissance particulière, alors que c'est la parole de Dieu en nous qui a de fait une puissance que nous n'imaginons pas, et troisièmement, que nous ne sommes pas abandonnés, mais que le Christ est bien avec nous jusqu'à la fin du monde. Chers amis des cellules, je vous souhaite de bons échanges.